Non, mais bon. Et donc, la question, il m'est venu lorsqu'on a, j'ai commencé à établir la programmation du festival et je m'étais dit, bon, est-ce que, par exemple, dans les cas d'un auteur comme Gao Xingai, comment il est intervenu chez lui, n'est-ce pas, cette démarche d'écriture, est-ce que pour écrire en français, il a dû se détacher de ce qui était sa culture à lui, ou au contraire, il s'est d'abord plus ancré en lui. Est-ce que dans ces dialogues de sa culture à lui et les dialogues avec les publics en France, est-ce que il n'est pas là déjà l'intégration? Voilà, c'était sur ces questions-là. Et je crois que voilà, moi j'avais envie qu'on interroge, que nous artistes et tout ça, dans les cadres du festival, on puisse interroger sur cette question, parce que je pense que l'artiste, de plus en plus, il faut qu'il joue aussi un rôle dans la société et dans les débats d'idées. Je pense pas que l'artiste doit rester simplement dans une démarche linéaire de sa création. Je crois qu'il faut qu'il ait un regard sur la société, sur la ville dans laquelle elle vit. C'est la démarche qu'on a à la compagnie et dans les festivals, et c'est dans cette prolongation qui a sa place ces débats-là. Donc voilà, je vais passer la parole à Jean-Pierre. Il y a un de nos intervenants qui est un petit peu perdu dans la ville, donc il tourne un petit peu avec sa voiture. Dès qu'il arrive, il va rejoindre. Merci. Et puis...
merci Marcos. On m'entend là ou... Oui, oui, d'accord. Qui m'a enlevé tous les mots de la bouche, donc il a parfaitement présenté ce débat que nous allons avoir, enfin cette discussion plus exactement. Juste un mot simplement également par rapport, parce que je suis très râleur en fait, on parle de, le sujet c'est l'intégration bien évidemment, et en fait d'intégration il y a déjà une grande distance qui nous sépare, je trouve ça assez paradoxal, et en plus toujours pour parler d'intégration, nous avons déjà perdu un intervenant. Donc, mais qui va bientôt réintégrer justement notre petite réunion commune. Voilà, donc nous allons entamer immédiatement cette discussion. Je voudrais simplement faire, je vais vous présenter bien évidemment nos intervenants. Je voudrais simplement faire cette petite remarque parce que tout à fait par hasard, si tant est que le hasard existe, ou alors c'est un hasard objectif, il se trouve que derrière cette table, on va se retrouver à quatre intervenants, quatre personnes qui sont au fond d'origine lointaine, si je puis dire, lointaine de l'Île-de-France, bien évidemment, et de Bagneux. Je trouve ça assez, comment dire, assez joli. Et nous pourrons donc parler de nos expériences, enfin, surtout, moi je m'abstiendrai, mais nos invités pourront parler de leurs expériences, de précisément... d'intégration. Alors, pour que les choses se passent calmement, relativement bien, nous avons structuré un petit peu cette séance. Je vais passer la parole aux uns et aux autres. Chacun va intervenir une dizaine de minutes, justement pour raconter sa propre histoire, éventuellement, faire part de ses problèmes, ou pas d'ailleurs, d'intégration. Alors, non seulement il y a de la distance, mais il y a du grincement. Mais c'est bien, ça donne de la vie. Voilà, donc, et au bout de ces 10 minutes, bien évidemment, nous discuterons ensemble. Et quand je dis nous, c'est vous et nous-mêmes, bien évidemment. Encore une fois, je regrette que nous soyons un petit peu éloignés les uns des autres. Alors, sur nos intervenants, donc, je vais commencer tout simplement par vous présenter la personne qui n'est pas là, qui est Kazem Shariari, qui est un homme de théâtre, qui est iranien d'origine. C'est un metteur en scène, mais qui est plus que metteur en scène, puisqu'il travaille, il fait un travail assez considérable dans le 19e arrondissement à Paris, dans une cité HLM. Il a un petit théâtre qui est dans, je dirais, quasiment dans les sous-sols d'une tour HLM. Donc il pourra nous parler de son expérience à ce niveau-là. Ensuite, toujours pour continuer sur la logique théâtrale, si je puis dire, à ma droite, C'est ma droite, oui. Messaoud Ben Youssef, donc qui est, il a plein de titres, je le lis sur le papier d'ailleurs, vous l'avez entre les mains, professeur de français et de philo, mais moi je l'ai connu en tant que journaliste et surtout en tant que traducteur d'un grand homme de théâtre algérien qui était Abdelkader Alula, qui a été le premier intellectuel d'ailleurs à être assassiné par les islamistes durant cette période noire qu'a connu le pays. Et donc Messaoud Ben Youssef a traduit, et grâce à lui d'ailleurs, nous avons pu connaître l'œuvre d'Alula en France. Mais par ailleurs, bien évidemment, Messaoud Ben Youssef est lui-même auteur, et d'ailleurs vous verrez durant ces journées certains de ces textes qui seront soit joués, soit lus. À ma gauche, donc, Hamid Salmi, qui est psychologue, psychothérapeute, chercheur en ethnopsychiatrie, et qui s'attache, si j'ai bien compris, donc, dans le quotidien de sa vie, à recoudre ce qui est complètement déchiré. Hein. C'est une tâche qui est pour le moins, comment dire, difficile, monumentale, enfin, tous les termes sont possibles par rapport à cette chose-là. Voilà. Donc, bah, écoutez, entrons rapidement dans le vif du sujet. Simplement, oui, et pour rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Marcos, qu'effectivement l'art effectivement doit s'ingénier quelque part à faire progresser cette idée d'intégration, à aider à l'intégration des uns et des autres. Je voudrais, puisque il y a pas mal de personnes qui viennent du milieu théâtral, je voudrais quand même revenir un peu sur ce qui s'est passé dans les années 90 en France, où il y a eu quand même un débat relativement houleux dans le petit monde théâtral entre justement ce qui était de l'ordre de l'art et ce qui était de l'ordre de la culture. Et il y a eu deux écoles qui se sont affrontées, l'école du théâtre d'art précisément, et qui prétendait faire de l'art pour l'art, et puis en face il y a eu justement tout ce qui a été considéré comme action culturelle. Hein. Mais je ne voudrais pas qu'on revienne sur ce débat, je voudrais dire que ça a été quelque chose quand même de relativement important, qui a posé pas mal de problèmes, et finalement je trouve que ce genre de friction est tout à fait intéressante, parce que ce sont de ces frictions-là éventuellement peuvent naître un certain nombre de réponses ou de propositions de réponses en tout cas. C'était l'époque des années 90 où on parlait volontiers, surtout de personnes d'ailleurs, de réduire la fracture sociale, même qui ont fait thème, qui se sont servis de ces thématiques-là pour faire campagne, si je puis dire. Et donc on a quelque part assigné aussi à l'art la nécessité, je dirais, de réduire cette fameuse fracture sociale. Voilà. Mais je vais me taire très très rapidement. Je vais passer la parole immédiatement à Hamid Salmi, afin qu'il nous fasse part de... Enfin, d'abord qu'il utilise les 10 minutes qui lui sont très généreusement accordées, et qu'il nous fasse part de sa propre expérience ou de son propre parcours, parce qu'au fond, chacun ici a un parcours tout à fait particulier par rapport justement à ce problème d'intégration qui est capitalissime, ça va de soi.
Merci bien, merci. Bonjour, voilà, je suis très content de me retrouver parmi les gens de l'art, parce que en fait j'aurais souhaité, quand j'étais enfant, devenir un chanteur, un homme de théâtre, un romancier, faute de quoi je suis devenu thérapeute. Donc voilà, c'est... Alors je pars toujours dans ces exposés que je fais toujours du lien. Donc le lien, en fait, c'est une journaliste de Bagneux qui m'a rencontré, Fanny Tell, qui est là-bas, et qui a donné mon livre à lire à Marcos, et qui m'a appelé, et il m'a parlé aussi qu'il y a un groupe qui s'appelle Théâtre et Soins, je pense, hein. Et donc du coup, il a vu que ça s'articulait parfaitement avec ce débat. Donc la matière est dense, le temps imparti est très court. Je vais partir de mon propre témoignage personnel. Bienvenue. Pardon. Bonjour.
Vous voyez, l'intégration commence.
L'intégration commence. Donc voilà. On va partir là dans un autre voyage. Il vient d'arriver là, et tout de suite on part dans un voyage. Donc je vais partir de mon témoignage personnel Je suis né en Algérie, en Kabylie, région montagneuse, pendant la guerre, et c'est très important. J'ai vécu la guerre d'Algérie. J'ai vécu le jour et la nuit, le jour où les soldats arrivaient. J'avais même noué une relation affective avec un chef de zone, un officier. Et le soir, la nuit, c'était les maquisards qui arrivaient avec leur burnous et les armes qui pointaient sous le burnous et qui me disaient « Tu viens avec nous au Djebel, à la montagne, pour combattre ?» J'étais tout fier d'eux. Et on était sur un volcan parce qu'on avait une cache d'armes. Et puis, il y avait les maquisards qui parfois passaient la nuit dans ce petit village sur une crête en Kabylie. Et donc, en fait, les hommes étaient soit au maquis, soit ils étaient migrants de l'intérieur, en Oranie ou à l'Est. D'autres étaient partis en France. Donc la France était inscrite déjà dans mon destin là-bas, la langue française que j'ai dû entendre parler par les officiers, par l'armée. Hein. Et j'ai plein de souvenirs parce que par la suite j'ai quitté la Kabylie à l'âge de 6 ans, mais il y a une densité ontologique, culturelle extraordinaire. Et comment je me rappelle des événements? Tout simplement par les rimes, parce que les femmes, elles mettaient en rime. Elle chantait, elle mettait en rime tous les événements qui se passaient en Kabylie. Donc du coup, des années plus tard, il y a les rimes qui me venaient, les poèmes, et puis je demandais à mon père, mais que signifie ce nom et cet événement, etc. Il me redonnait le sens de l'événement en question. Donc du coup, j'étais comme un vieux quand je rencontrais même bien plus tard, 20 ans après, 30 ans après, des vieux maquisards, je leur racontais l'histoire de la région à travers ce que chantaient les femmes. Il y avait même une poétesse qui a été mise à mort, qui a été tuée par l'armée parce qu'elle était inspirée la nuit. Elle faisait des poèmes pour encourager le combat donc des maquisards. Et j'ai vécu parallèlement dans ce monde, à la fois c'était l'enfer, la guerre, etc. Mais tout ça je l'ai enfoui. Et je me rappelle surtout des belles choses, les paysages, le chant des oiseaux, la rivière, cette tendresse des femmes, des cousines, des grands-parents. Mais à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé. J'avais perdu une sœur cadette, elle est morte de maladie. Et j'ai dû me sentir en danger. Tous les hommes étaient partis, le dernier c'était mon oncle paternel qui m'a laissé sa canne, que je traînais avec moi, hein, comme symbole. Et à un moment donné, je demandais à voir mon père. Or, mon père avait un magasin dans une petite ville thermale, en Oranie, qui s'appelle Hammam Bouhajar. Et je demandais à le voir. Une fois, il était intervenu, il était venu au village, il a été fait prisonnier. Et pareil, j'ai tous les événements, c'est comme un film qu'il me raconte. Tous les événements sont contenus dans ce récit maintes et maintes fois raconté par mon père. Donc à un moment donné, j'ai senti probablement ce désir du père, hein, et ce désir de devenir un homme, de rejoindre des hommes. J'ai été circoncis là-bas. Mon prépuce se trouve dans un roseau entre le pilier central et la poutre maîtresse. Mon placenta se trouve enterré sous un figuier. Mais ça suffisait pas pour devenir un petit homme et puis un homme. Et donc c'est comme ça que c'est moi-même qui exigeais de partir. Ils m'ont dit « Mais qui va te prendre dans son giron? Qui va te cajoler ?» Je dis « La terre va me prendre dans son giron. » Ils pensaient que j'étais déjà mûr. Je suis parti. Et voilà, l'asphalte à l'infini, les immeubles. Parce que j'ai vécu dans un village vraiment traditionnel avec l'écurie des animaux qui chauffaient la maison, avec le canon, le foyer, le brasero, la soupente, etc. Donc là, une vraie maison traditionnelle, et je suis né dans cette maison-là. Et le nouveau monde commence. J'avais déjà vu les armes, j'ai vu les uniformes, j'ai entendu probablement le français. Mais là, j'ai passé la nuit à Blida, dans une ville. C'est là que j'ai connu la maison moderne, avec ses robinets, ses sanitaires, ses faïences, etc. Et j'ai encore la nostalgie de ce départ, parce que c'était à la fois, je m'ébouriffais, il y avait plein d'espoir, et la nostalgie était déjà là, d'un monde que j'allais quitter. Et je suis arrivé dans un autre monde arabophone, et dans le magasin de mon père, qui était une interface entre le monde du dehors et le monde du dedans, où les langues justement dont on va parler se côtoyaient, l'espagnol, on était en Oranie, la langue oranaise qui est pleine d'humour, très très riche, et en même temps infiltrée par des mots d'espagnol. On appelait le maître le mistro, la maîtresse le mistral, cabasso pour parler de panier, macho, etc. Cette langue était, mais moi je pensais que c'était la langue arabe en fait, hein. Et il y avait donc le français et puis le kabyle que je continuais à parler à mon père parce que les règles de l'honneur, du respect, etc. étaient inscrites dans cette langue matricielle. Par la suite, je suis entré à l'école maternelle, voilà. C'est là où je voulais devenir un artiste. J'aurais voulu que l'école maternelle se prolonge à l'infini, la peinture, le chant, la danse, etc., le dessin. Et il y avait une Espagnole, donc je me rappelle encore de son nom, Madame Aranda, qui était très gentille avec moi. Et c'est là qu'ont commencé les malentendus culturels. Ça a commencé sous la forme des bas. C'était une femme qui avait les jambes noires et le reste blanc. Et je me demandais pourquoi elle avait des jambes noires. Donc j'explorais, et souvent j'étais sous sa jupe. Voilà. Et jusqu'au jour où j'ai appris que c'était des bas, en fait. Hein. Et à le bas, c'est comme les maquisards qui venaient la nuit et les soldats qui venaient le jour, ça recommençait. En tous les cas, c'était le monde de l'émerveillement. Mais en même temps, c'était là où j'ai commencé à me suradapter, parce qu'il fallait s'adapter. Je venais de ma montagne, j'étais le petit kabyle, etc., reconnaissable aussi physiquement, plus ou moins. Et il y avait un effort d'adaptation extraordinaire, aussi bien à l'école, mais aussi par rapport à l'environnement autour. Et en même temps, il y avait cet effort de garder ce qui me reliait à la Kabylie, donc cette nostalgie persistante de ce monde perdu de l'enfance, de la langue et de la culture qui allait avec. C'était ma grand-mère qui venait des fois, et j'ai l'odeur du figuier dont je ressens dans ses habits, l'odeur de l'olivier, etc. Et donc j'ai vécu dans ce monde un peu trouble, hein. C'était encore la guerre, et puis quelques années plus tard l'indépendance, l'OAS. Donc j'ai vécu tout ça pas comme quelqu'un qui avait à l'époque, les jeunes qui avaient 18 ans, 15 ans, pouvaient maîtriser ces choses, mais moi j'étais plus jeune, et donc c'était plus dur pour moi, parce que je voyais le monde bouger à l'extérieur de moi et un autre à l'intérieur de moi, et je n'avais aucune prise sur ces mondes-là. C'est pour cela que je suis aujourd'hui thérapeute, et j'ai créé beaucoup de groupes de parole pour soigner des gens victimes de la violence, j'ai fait des groupes de parole avec des harkis, etc. C'est comme cette histoire-là, je la revivais aujourd'hui en maîtrisant un peu plus, en l'intégrant un peu plus. En tous les cas, vers l'âge de... Il y a eu l'indépendance qui est aussi un choc parce que les pieds noirs sont partis, les juifs en laissant leur cimetière, leur langue, et laissant une partie de leur mémoire là-bas, en emportant une partie de notre mémoire aussi. Et l'indépendance, recréée ou retrouvée, plutôt recréée. Et déjà, j'étais au courant de tout ce qui se passait, de ce qui se tramait aussi, des conflits entre les wilayas, etc. Ceux qui sont plus âgés que moi ici, en plus de connaissances par rapport à cette époque-là, je sais pas. En tous les cas, je savais qu'il y avait des choses troubles dans les fondations de cette nouvelle nation. Et je me suis intéressé très très vite à l'histoire et j'ai pris conscience de l'imposture du pouvoir qui s'est installé. Et ça a été très dur pour moi. Parce qu'en fait, j'étais tout le temps seul. En fait, j'avais beaucoup de questions, mais j'avais pas de destinataire possible pour ces questions. À la fois pour l'enfant qui allait à l'école et qui avait des parents qui étaient de culture orale, et puis l'enfant qui posait des questions d'adultes, qui sont des questions dangereuses. Et j'ai continué donc mon chemin jusqu'à l'âge de 16, 17 ans, 18 ans. Là, j'ai vécu une crise existentielle, toute cette frayeur enfouie de la guerre en Kabylie qui est revenue, et puis ce que j'étais devenu par la suite, qui j'étais, comment être soi-même quand tout change autour de soi, quel est le sens et la puissance ultime, à qui j'appartiens, à quel groupe, quelle divinité. Voilà, j'étais perdu tout seul dans mes livres. Il y avait le grand dictionnaire Larousse, et puis dans le magasin de mon père, j'ai pu trouver un livre qui racontait page par page l'histoire à la fois de la France et l'histoire de l'Algérie. Donc j'étais plongé tout seul dans ces mondes-là. Et c'est comme ça que s'est destinée en moi une nature un peu de médiateur, à chercher justement à tisser, à réconcilier, à négocier. Mais j'ai pas trouvé des personnes possibles, des modèles pour moi qui étaient dans cette histoire de faire des ponts. Les intellectuels à l'époque, mes aînés que je voyais, ils étaient soit dans un monde, soit dans l'autre, pas dans les deux. Un jour au lycée, je me rappelle, on avait une discussion sur l'assemblée du village. On avait parlé de l'assemblée du village en Kabylie et un professeur qui me fascinait, qui était une sorte de modèle, m'a répondu « Mais ça, c'est le communisme primitif. » Donc j'ai dit « Bon, primitif toi-même. » Et après j'ai dit « Bon, je ne peux pas, mes parents, ils étaient dans la culture orale, ils ne peuvent pas représenter pour moi les deux mondes. Ceux qui étaient dans l'autre monde ne pouvaient pas non plus représenter pour moi les deux mondes. Donc du coup, j'ai fait mon chemin tout seul, comme dit Max Groucho, parti de rien, j'arrive à rien peut-être, mais tout seul. En tous les cas, je suis arrivé quand même à quelque chose, une fois que j'ai plus ou moins surpassé cette crise-là, ça a débouché sur une quête donc de la réparation, une quête de la réconciliation, une quête de connaissance. J'étais plongé dans mes livres d'histoire, d'islamologie, d'ethnologie, et à un moment donné, je voulais aller à l'école de la diplomatie, l'ENA, l'administration économique algérienne. Mais j'avais appris sur quoi était fondé cet état-là, et c'était pas ma voie. Et ensuite, je suis tombé sur des livres de psychanalyse que mon jeune oncle, qui était enseignant, avait dans sa bibliothèque. Et je me dis, peut-être la psychanalyse va répondre à mes questions. Cette psychologie des profondeurs, on l'appelle. Mais j'ai vu par la suite, j'ai entamé des cycles, une maîtrise de psychologie clinique, et j'ai vu que, pareil, les programmes scolaires tombaient comme ça. Mais ils repartaient pas de nos traditions, de nos mœurs, de notre langue, etc. Et j'étais toujours dans cette quête, et jusqu'au jour où j'ai rencontré un professeur qui venait de Paris, qui avait étudié les Indiens, qui était ethnologue, et qui avait étudié chez un professeur qui s'appelle Georges Devreux, qui est le créateur de cette discipline au nom un peu barbare, ethnopsychiatrie, et qui était en train de poser des questions à mes camarades sur l'histoire de l'Algérie, sur les traditions, sur les mœurs, et on dit, il n'y a qu'un spécimen chez nous qui s'intéresse à nous, c'est Hamid Salmi. Donc c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance, et il m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui pouvait réconcilier tous ces mondes avec cette discipline, ethno quelque chose. Ethno, psy, yatri, ça veut dire soin, psy c'est l'âme, ethno c'est les peuples. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Paris en sachant que la France était déjà inscrite dans mon destin, par la langue française, par tous ces livres que j'ai lus. Je pensais rencontrer au coin de la rue Rousseau, Montesquieu, Voltaire, mes amis. Et ben, j'ai rencontré des Français qui ne juraient que par les impôts. Mais j'ai payé, moi, monsieur, mes impôts. Et ça me faisait quelque chose. C'est là, c'est vraiment, je me dis, c'est un autre pays, là, les impôts, le citoyen, l'État, et puis les gens peuvent vous péter. Et donc, j'avais hâte de payer les impôts. Maintenant, je regrette un peu, mais je dis comme ça, je peux piquer moi aussi une sainte colère. Et alors, à ce moment-là, c'est tout un pays devant moi, j'arrive, c'est comme si c'était un vieux pays avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre encore une fois. Et c'est comme si j'étais né un peu en retard, et j'arrive dans un monde qui était déjà fait, un monde vieux, qui a ses traditions, il a fallu recommencer, reprendre, c'est quoi, comment l'homme occidental est fabriqué, comment il est fait, comment il est tissé de l'intérieur. Et voilà, j'arrive donc dans ce nouveau monde, et donc je retrouve aussi mes compatriotes, notamment les Algériens, les Kabyles que j'ai quittés de la Kabylie, qui avaient vécu en Kabylie, qui sont venus directement ici, de leur montagne en France, et les jeunes, les enfants de seconde génération à l'époque, qui commençaient à rouspéter. Et donc à un moment donné, j'ai travaillé comme psychologue dans un hôpital, et là à l'hôpital, je voyais débarquer, ceux qui travaillent dans le domaine social connaissent ces hommes, ces ouvriers algériens, notamment maghrébins, qui viennent, qui se plaignent des symptômes de toutes sortes, hein, physiques, qui donnent aux médecins, à la divinité donc d'ici, la médecine, une des grandes divinités, hygiène, qui se plaignait, qui revendiquait devant cette médecine et qui donnait des symptômes physiques comme ils vont chez le marabout en disant j'ai mal ici, ça irradie là, et ça défiait toute l'anatomie médicale, la physiologie. Et les psychiatres ne comprenaient rien, et ils essayaient de leur faire obtenir des pensions. Moi aussi, j'étais perdu. Je me disais, mais comment, avec toutes les études que j'ai faites, j'arrive pas à comprendre. Jusqu'au jour, chemin faisant, donc j'avais continué à réfléchir, à faire ces études donc d'ethnopsychiatrie avec des collègues, et notamment un des promoteurs de cette discipline, Toby Nathan, l'a créé à Avicenne, là où la vie est saine, à Avicenne. Donc à l'hôpital Avicenne à Bobigny, Bobigny brûle aujourd'hui. On a créé une consultation avec un groupe, un traducteur, des thérapeutes de différentes origines et des gens qui venaient en famille ou même qui venaient avec des voisins, qui parlaient pour eux. On ne dit pas non, monsieur, c'est à lui de parler, c'est lui qui concerne, il est porté. Donc c'est un groupe, et là j'ai retrouvé le magasin de mon père qui est un bazar, j'ai retrouvé le souk. J'ai retrouvé les confréries, j'ai retrouvé les marabouts, j'ai retrouvé les pratiques traditionnelles, les systèmes thérapeutiques de mon monde d'origine et puis des autres mondes. Et depuis, c'est à partir de là que j'ai commencé à réfléchir à tous ces problèmes de migrants sur lesquels on pourrait revenir, parce que je crois que j'ai épuisé mon temps de parole. Merci.
Merci Hamid Salmi, merci pour cette description d'un parcours passionnant, dans lequel d'ailleurs, bien évidemment, on retrouve le noyau qui est le noyau de la langue, voilà. Bien évidemment, et sur lequel, effectivement, ici on est à parole en acte, à hauteur en acte, donc on retombe, si je puis dire, un petit peu sur nos pieds, mais c'est vraiment effectivement le problème central. Encore que je dirais que vous avez quand même une chance, peut-être par rapport à Kazem Shariari, dans la mesure où en Algérie, c'est-à-dire où vous étiez au départ, vous aviez baigné déjà quelque part dans la langue française, ce qui est un avantage, un atout assez fantastique. Mais on reviendra sur ces problèmes de la langue parce que effectivement, ils sont fondamentaux. Simplement, ce que je voudrais dire, juste avant de passer la parole à Kazem Shariari, pour qu'il nous compte à son tour, justement, nous raconte tout ce parcours d'Iran, puisque vous êtes iranien, je ne me trompe pas, ici, à la France, c'est effectivement ce qui me paraît essentiel, c'est ce problème de la langue, et je pense toujours, lorsque je parle de ce problème de la langue, à cette phrase de Proust qui disait qu'on écrit toujours, au fond, dans une langue étrangère, et je pense à une autre anecdote qui est celle de Kafka, qui, vous le savez, était tchèque, mais qui parlait en allemand également, qui explique dans un de ses journaux qu'il a toujours eu des difficultés relationnelles avec sa mère parce qu'il appelait sa mère en allemand, Mutter, et que donc il y avait quelque chose qui n'arrivait pas à se tisser avec elle, et qui n'est pas parvenu d'ailleurs à se tisser. Voilà, mais ça c'était une petite parenthèse. Je vais passer donc la parole pour ces fameuses 10 minutes à Kazem Shariari, en lui précisant d'ailleurs que je me suis permis de vous présenter, parce que je sais quand même deux, trois choses de vous. J'ai même vu certains de vos spectacles dans ce lieu, c'est une sorte de, c'est pas une sorte d'ailleurs, c'est un HLM. Voilà, donc on vous connaît un petit peu maintenant, je vous passe la parole.
Bonjour, d'abord je m'excuse d'être en retard, j'ai mal calculé mon temps. Et comme je suis un homme bavard, j'ai essayé de rassembler ma pensée dans quelques phrases. Je n'ai pas raconté mon histoire du tout, presque. Je raconte ce que je vis aujourd'hui. C'est un moment grave, ce qui se passe aujourd'hui en France. Donc, je pense que je suis comptable. Être citoyen d'un pays où des hommes incompétents gèrent l'affaire sociale, où la violence se présente de manière inimaginable, et qu'il faut une réflexion. Donc, ce que je pense, un étranger, seulement je vais dire un mot au sujet de l'étranger. J'ai discuté avec un ami, il me disait, on travaille sur la notion d'étranger. Une psychiatre qui disait, la question de l'étranger ou la langue étrangère commence pour un enfant lorsqu'il est né et sa mère lui parle dans n'importe quelle langue. Déjà, la langue de sa mère, c'est une langue étrangère. Donc, on lui impose déjà la chose étrangère. Et puis, bon, le fait que, comme je l'ai écrit, moi je suis poète et dramaturge, je l'ai écrit, je suis né au bord d'une rivière, erreur, j'aurais dû être dans la rivière. Dans la rivière, au moins, les choses étaient claires. Mais au bord d'une rivière, les choses compliquent. Peut-être ça plaît au poète, parce qu'il peut gratter quelques mots, mais aussi, ça fait que... On réfléchit sur vivre ensemble. Qu'est-ce que ça signifie, ce vivre ensemble, finalement? Qu'est-ce que ça veut dire, cette démocratie? Alors, il n'y a pas de logique dans ce que je vais dire, parce que c'est coupé, coupé, coupé. Mais en tout cas, j'ai gratté quelques mots. Alors, j'ai quitté un pays et un continent en faveur de la liberté. Et j'ai gagné un pays et un continent en faveur de la liberté. La liberté, la seule chose... que l'on doit chérir à jamais. Pour ma part, j'ai vécu des situations contradictoires et souvent en dehors de ma volonté, pour en venir à cette conclusion que dans notre monde, il n'y a rien de normal, rien de naturel, et notre vie se situe entre le droit et nos droits de faire un choix. Un certain hasard dialectique qui poursuit notre destin à la lumière duquel l'on peut voir les mouvements que l'on crée. Ce sont les mouvements du fond du fleuve, là où les bras du fleuve sont liés jusqu'à sa source, tels des leviers démultipliant une force élastique déjà colossale. Là, dans ce rapport de force, l'eau et l'obstacle s'animent dans une traversée d'eau qui signifie un le lendemain. Je reviens au mot intégration. J'avoue que le seul sens qui me plaît dans ce mot, c'est sa signification mathématique. Détermination de la valeur des inconnus d'une qualité différentielle. Qui veut s'intégrer dans un pays ou dans un continent qui bâtit des murs, assassine par les mains des soldats marocains, tunisiens, algériens, nos semblables aujourd'hui au nom de l'Europe? Nous n'avons nulle part où aller. C'est ici que nous devons le chercher. Brûler nos mots, ça serait ici que tu chercheras toujours. Tu la cherches en ce moment même avec moi, à travers moi. Le 20e siècle, le siècle le plus sanglant de toute histoire jusqu'alors, le plus rusé, le siècle de la vitesse, l'oppression, de la guerre civile, le siècle de tromperie, le siècle des luttes entre les intelligences qui devaient inventer le début d'un compromis, une lutte acharnée qui se résout désormais dans une certaine idée de la démocratie, où l'homme doit débattre pour que le destin des banques ne nuise pas à son destin d'homme. Là, la démocratie, le lieu d'une contradiction praticable et non praticable. Pour s'intégrer dans un pays, il faut avant tout bâtir des tremplins mobiles afin de pouvoir exposer sa différence, émanciper son originalité par la voie de sa mémoire, son imagination, ses émotions, trois pôles qui distinguent la place de l'art et la création de la culture, dans sa résistance face aux multiples visages de la barbarie. dans son endurant gardiennage de la condition humaine. Car le langage, c'est nous. Non pas nous, les écrivains ou les artistes, mais nous, les femmes et les hommes. Ainsi, nous pénétrons comme une goutte d'eau portant la promesse d'un océan qui s'accommode aux obstacles du monde existant pour le transformer en un monde où son origine est partageable en culture, comme un bien commun. Là où les frontières sont des marchés équitables, les murs sont des tableaux chargés de nos mémoires innocentes, encastrées, secrètes, nos mémoires vives, pour que vive en nous chaque femme étouffée. La femme qu'ils ont tuée à l'aéroport de Belle, en Belgique. Chaque homme blessé, chaque enfant abandonné dans les recoins de ce continent qui est le mien aujourd'hui. Il y aura aujourd'hui un maillon qui nous échappe. Toujours un maillon qui nous échappe. Une porte ouverte sur une allée quelconque qui nous permettrait de comprendre autrement, qui marquerait l'émergence d'une quantité de suppositions contradictoires et possibles, qui appréhenderait la notion de pessimisme dans le processus de la trahison pour se réapproprier sa place, où le cri à écrire est un geste pour sauver le possible, un possible ignoré. Une porte s'ouvre sous nos yeux, dont les affrontements courageux pour réinventer une exposée de pensée délivrée, pour dompter la peur, pour réinventer enfin la démocratie, pour qu'en vibre au rebord de chaque recoin où s'abrite un espoir, une utopie, un idéal, une chose informe qui rompt le temps. C'est la raison d'être de l'art, de la création et de la culture, qui est ainsi, depuis toujours, énoncée brûlante. Il n'est pas absurde de penser, puisque nous existons malgré notre origine improbable, que nous ferons tout pour dire, pour tenir, et nous ferons tout aussi pour nous anéantir. Voilà ce qu'on doit retenir de l'art et de la culture. Les racines de la création contemporaine sont là, dans l'histoire, terribles, fécondes et incertaines. Toutes les certitudes se sont effondrées ces dernières années. Autant dans la jeunesse de thème, dans la forme et sa production. Aujourd'hui, la question centrale de l'art et la création est posée dans sa pratique, dans l'effort que nous employons pour dire des mots, pour faire des gestes, sentir et ressentir la présence de quelqu'un ou quelque chose d'absent, atteindre ce moment inévitable où, par l'art, nous tentons d'échapper à l'injustice du présent. Voilà, après, si vous voulez, on va rentrer dans le dialogue et puis je vous raconterai si vous demandez.
Bah, merci, Kazem Chariari, pour ce manifeste poético-politique, si je puis dire. Je ne vois pas comment le qualifier autrement. Je vais passer immédiatement la parole à mon ami Ben Youssef, Messaoud Ben Youssef. Voilà, tout simplement.
Merci, Jean-Pierre. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour ou bonsoir. J'ai choisi de vous faire ce que l'on appelle, par un mot charmant et désarmant et désuet, qui s'appelle la communication. Donc j'ai choisi de vous faire une communication. Mais j'espère que vous ne verrez dans cette communication, qui a été écrite il y a quelques jours de cela, strictement aucune référence ou allusion à des événements réels. C'est exactement faire comme dans les films américains, toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels ou imaginaires, vous connaissez la suite. Alors voici le titre de ma communication. Je cite, entre guillemets, « Intégrer, je le suis, où est la solution ?» J'ai choisi ce vers d'une chanson du groupe toulousain Zebda, intitulée 15 ans, et tirée de leur album Essence ordinaire, pour en faire le titre de la petite communication que je vais vous présenter. Le thème de cette rencontre étant art, culture et intégration, convenons que des artistes reconnus, Zebda, dont l'art procède d'une double culture, et qui aborde le problème de l'intégration, ce n'est pas si mal pour faire un bon commencement, un bon incipit. Alors je dis incipit non pas pour terroriser l'auditoire et le tenir en respect, mais pour remercier Louis Aragon de m'avoir appris le mot, et surtout d'avoir gravé dans ma mémoire une anecdote édifiante. Dans la préface de son livre « Le fou d'Elsa », Aragon, faisant la genèse du livre, nous apprend que tout était parti d'une phrase qui lui était restée de sa lecture d'un ouvrage sur la chute de Grenade. La petite phrase disait, entre guillemets, « la veille où Grenade fut prise ». Et elle s'était installée à demeure dans la conscience du poète, refusant obstinément de la quitter et devenant un leitmotiv plat, une sorte de refrain sans signification apparente. Aragon, nous dit-il, finira par découvrir que si le bout de phrase refusait de passer, c'est parce qu'il contrevenait à la syntaxe. En effet, la veille où Grenade fut prise n'a pas de sens, la formulation correcte étant évidemment la veille du jour où Grenade fut prise. Voilà comment une faute de syntaxe fut à l'origine de ce magnifique chant d'amour par lequel le poète investit à sa manière les territoires de l'histoire et de la légende. C'est donc fort de ce précédent illustre que je me suis attaqué à ce vers du groupe Zebda qui n'arrêtait pas, lui non plus, de me trotter dans la tête, de ne pas passer. Intégré je le suis, où est la solution? Intégré je le suis, où est la solution? Il ne s'agissait pas ici de faute de syntaxe. Tout au plus, les puristes pourraient-ils soupçonner une anacolute, c'est-à-dire une rupture dans la construction grammaticale de la phrase. Encore que l'anacolute puisse être une figure de style voulu et qu'elle soit très fréquente dans le langage parlé. Il s'agissait d'autre chose que je ne parvenais pas à identifier et qui ne ressortissait pas, en tout cas, à la pure syntaxe. Et ce quelque chose m'intrigua un long moment, jusqu'à ce qu'il m'apparut brutalement que j'étais dans un état de désarroi pur et simple parce que j'avais été trompé dans mon attente. Pour le dire autrement, je découvrais que j'étais victime d'un pied de nez. Et le lieu précis de la mystification se situe au niveau du mot « solution » qui était venu tout simplement et sans vergogne aucune occuper la place du mot normalement et naturellement attendu, le mot « problème ». J'étais désarçonné parce que j'attendais du chanteur qu'il dise « intégré je le suis, où est le problème ?» Au lieu de quoi, il s'interrogeait et interrogeait ses auditeurs sur la solution. Mais replaçons ce vers dans le contexte de la chanson dont le titre, je le rappelle, est « 15 ans ». Le chanteur évoque, sur le mode nostalgique, ses amis et se demande ce qu'ils ont pu devenir, car tout le monde, n'est-ce pas, dit-il, ne s'est pas tiré d'affaire, pas de la même manière. Puis il parle des frasques de l'adolescence, des 400 coups qu'à cet âge tout le monde fait. Par exemple, je cite, « ces attaques au croissant chaud le matin qui ne méritaient pas qu'on te traite d'assassin. » Car à cet âge, dit le chanteur, on est plus près des haltères que des égaux, plus près de la cervelle que du cerveau, plus près des mains que des humains. Enfin, il fait part de ses regrets dans les termes suivants, je les cite intégralement. « Mais il y a deux ou trois choses que je regrette, pour une porte qui s'est un peu ouverte, un sourire qui disait « il n'est pas si con », un îlotier à qui j'aurais dit non, et qui m'a saoulé avec son intégration. Intégré je le suis, où est la solution? Intégré je le suis, où est la solution? » Repris en cœur à plusieurs reprises. Alors, et d'un même mouvement, il m'est également apparu que, au-delà du calembour déstabilisateur, c'est-à-dire la substitution du mot « solution » à celui de « problème », Au-delà des nécessités de la rime, on peut penser qu'il s'agissait de faire rimer intégration, solution. Au-delà de tout cela, donc, l'apparition incongrue du mot solution créait une interrogation et une attente pressante qui exigeait à leur tour une réponse. Réponse à la question de la solution, justement. Solution à quoi, me suis-je demandé? À quel problème, au singulier ou au pluriel? À quel problème, au juste, la chanson fait-elle allusion? Pas à ceux de l'intégration, en tout cas, puisque le chanteur affirme péremptoirement qu'il est intégré. Il ne peut donc s'agir que des problèmes évoqués plus haut dans la chanson, c'est-à-dire ceux que révèlent des comportements transgressifs, ces conduites situées à la lisière de la norme, de la loi. Mais ces problèmes-là relèvent-ils de l'intégration? La réponse du chanteur est claire et sans ambages. Il nous dit qu'il ne faut pas faire comme l'ilotier qui ramène tout comportement blâmable à un défaut d'intégration. En d'autres termes, il ne faut pas que les problèmes de l'intégration réelle recouvrent et masquent les problèmes liés à l'adolescence, à ce moment de la vie où la révolte est normale, où l'on se tient avec délice sur les franges de la délinquance et où il convient de ménager à la jeunesse cette marge de permissivité, vigilante quand même, à l'intérieur de laquelle elle pourra faire l'épreuve de la transgression sans trop de dommages pour elle-même ni pour autrui. Excusez-moi. Puisqu'il ne s'agit pas de ces problèmes-là, de quoi alors est-il question? À quoi peut bien renvoyer cette fameuse solution? Je suis finalement parvenu à la conclusion que c'est bien ce non-dit, ce problème occulté, qui fait la particularité de cette chanson, son charme et son mystère en même temps. Résumons-la si vous voulez. Premier temps, la thèse, le thème éternel du temps qui passe et de la nostalgie de la jeunesse. Deuxième temps, l'antithèse, le coup de sabot à l'îlotier et à la conjoncture misérable, tout entière ramassée et ficelée dans le mot intégration. Troisième temps, synthèse, la question pendante et lancinante de la solution. Solution à quoi? Eh bien, selon moi, la réponse est au risque de vivre, tout simplement. Car la vie est un risque permanent contre la mort, car la vie est désordre, quand la mort est l'ordre même. Ce que cette chanson n'en finit pas de me dire, à sa manière, c'est que ramener tous les problèmes de la vie à la question de l'intégration est non seulement un acte de paresse intellectuelle gravement dommageable pour tout le monde, à commencer par le fils d'immigré de la énième génération, qui n'a plus que le choix qu'entre le statut de victime de la panne de la machine à intégrer et celui d'être impropre à s'intégrer. Mais c'est encore un acte de ségrégation puisque c'est ne voir dans le fils d'immigré qu'un allogène en mal d'intégration, un étranger dans toute son étrangeté. Et du coup, c'est sa similitude, je veux dire son humanité, qui est ainsi barrée. C'est que l'on ne cultive pas impunément les différences aux dépens de la ressemblance, sans dériver immanquablement vers ces territoires où l'homme est un étranger pour l'homme. Quoi d'étonnant dès lors à ce que Zebda, mais pas seulement lui, montre des signes d'impatience, pour ne pas dire plus, au prononcé du mot « intégration », devenu si suspect en soi. J'en conviens volontiers, la petite chanson nous a mené loin, et telle n'était peut-être pas l'intention de ses auteurs. Mais les intentions conscientes ne font pas la vérité, ni la réalité de l'œuvre d'art, laquelle échappe toujours, en quelque façon, à son créateur. Et vers quoi s'échappe-t-elle en vérité, sinon vers ce qui dépasse son auteur et le fait à la fois même et autre que tous les autres êtres humains? C'est ce que l'on appelle aussi l'universalité, et qui ne se réalise jamais aussi parfaitement que dans l'art, là où, mieux et plus que partout ailleurs, s'exprime l'humaine condition dans toute sa plénitude. Certes, la condition humaine s'extériorise dans d'autres domaines, mais elle n'y montre le plus souvent qu'une part d'elle-même, un aspect rabougri. Par exemple, la domination dans la guerre, la peur dans la religion, etc. Mais c'est seulement dans l'art que peut se réaliser une totalité véritablement signifiante de la condition humaine. Celle qui mêle inextricablement tout ce qui fait la vie dans son incommensurable complexité. Que l'art soit intégrateur des cultures, c'est-à-dire des différences humaines. C'est ça les cultures. Voilà qui résumerait valablement ce propos et qui dirait la nécessité ardente de l'art dans la cité d'aujourd'hui, si manifestement menacée par le babélisme, je veux dire l'absence d'un langage commun. Merci, mesdames et messieurs.
Bien, merci, Messaoud Ben Youssef. Je souris parce que j'avais oublié de vous dire en introduction que le sujet était vraiment le sujet de l'intégration de l'art et de la culture contribuant éventuellement à une certaine intégration. J'avais oublié de vous dire que c'était un sujet immense sur lequel nous pourrions discuter des heures et des heures, voire des jours et des jours. Et voilà que les trois interventions me donnent bien évidemment complètement raison, puisqu'au fond il y a trois réponses totalement différentes, dont je me plais d'ailleurs à souligner la différence, je dirais, jusque dans la forme. Je dirais presque la forme artistique, quelque part, ou culturelle, c'est assez étonnant, parce que ça regroupe, au fond, plein de choses, en même temps que ça soulève, bien évidemment, une foule de questions. Ça apporte un certain nombre de réponses en même temps. Je trouve que les trois interventions, dans leur singularité, d'ailleurs, sont d'une richesse extrême. Alors, je continue à sourire, mais je souris jaune, d'ailleurs, ce qui, dans mon cas, est assez bon. Ce qui est normal. Parce que comment rassembler tout cela, comment formuler
un... Où est la solution ? Solution au sens chimique.
Voilà, solution. Bah, chimie. Voilà, je vais vous passer la parole, parce que vous avez sûrement plein... je vous ai vu noter quelques petites choses. Donc, c'est vous, d'ailleurs, qui avez l'habitude de recoudre ce qui est déchiré. Donc, tout naturellement, je vais vous repasser la parole, si vous voulez intervenir sur les interventions des uns et des autres. En même temps, si vous-même avez des questions... N'hésitez pas, nous sommes vraiment entre nous, là.
Je crois que là, une des réactions, c'est vrai que je travaille sur les peurs de dissolution, par contre. Je veux dire, les migrants que je vois, je suis en France depuis un peu plus de 25 ans, et je suis au cœur des conflits entre les logiques institutionnelles, les impératifs institutionnels, et puis les logiques culturelles. Et là, les migrants sont seuls face aux institutions. Il n'y a pas de médiateur, il n'y a pas de pont possible. Et c'est là, justement, au cœur de ce conflit que j'y suis. Il y a trois sphères, celle de la justice, celle de l'éducation et celle de la santé, des soins psychologiques et de la santé qui sont concernés. J'interviens comme expert auprès des tribunaux pour expliquer les coutumes et la façon dont une personne peut avoir honte, peut se sentir coupable, ce qu'elle juge comme sanction possible pour son acte, son délit, et puis celle qui est prévue par la loi française, qui est une loi de responsabilité individuelle, qui est une loi qui vient pas des ancêtres, qui vient pas des religions, qui vient de l'Assemblée, pas du village, mais du Parlement, où les choses sont discutées démocratiquement, et puis c'est des lois laïques, et c'est des lois aussi provisoires. Voter à la majorité, évidemment, qui n'emporte pas toujours le consensus, puisqu'il y a toujours une minorité qui reste en rade. Donc, je suis au cœur de ces problèmes, notamment donc entre la justice et les groupes de migrants. La santé, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, notamment les problèmes des migrants de seconde et troisième génération, où justement, je parlais de dissolution, ces enfants sont clivés, ils ont un monde à la maison, et quand ils sortent, ils se transforment, ils ont un autre monde. Mais le vrai monde apparemment culturel, c'est le monde de la maison, puisqu'un jeune garçon, un jeune maghrébin ne va pas fumer devant son père, mais il risque de voler évidemment de commettre une transgression dehors. Il n'est plus dans son village, le monsieur qui passe, il s'appelle monsieur, c'est pas monseigneur, c'est pas Sidi, c'est pas Khalti, c'est pas sa tante, c'est pas... Parce que les gens de l'extérieur sont toujours, en quelque sorte, parentalisés, si l'on peut dire, hein, parentalisés de sorte qu'ils deviennent une société, c'est une famille élargie. C'est comme ça qu'on crée de la civilité dans les villages ou dans les quartiers des grandes villes. Là, on a une rupture totale entre le dedans et le dehors. Donc ce sont ces jeunes-là que je reçois, à la fois dans les diverses institutions de soins. J'ai créé une consultation à l'école aussi, où les enfants qui ont des problèmes, apparemment des problèmes scolaires, a priori, c'est des problèmes bénins. Mais en réalité, je fais venir les parents qui parlent dans leur langue, qui parlent Wolof, qui parlent Bambara, qui parlent arabe, qui parlent berbère. Et à ce moment-là, la langue intervient. Et donc là, je suis au cœur de la langue parce que c'est le problème de la traduction. Comment traduire des mondes divers? Comment traduire pas? Il n'y a pas de traduction mot à mot, il n'y a pas d'équivalent mot à mot, mais comment aller chercher le mot qui est la pensée qui est derrière le mot? Bien sûr, il y a certains mots qui sont neutres pour comme chaise, table, etc. Mais les mots philosophiques, les mots affectifs, la plupart des migrants utilisent, à part ceux qui sont dans l'art, hein, eux, ils ont créé une alchimie entre leur langue d'origine, une sorte de palimpseste, hein, comme ces fameux copies sur les Égyptiens anciens. Quand on est en panne de copies, on réécrit sur la même copie. Et donc, on a comme ça des strates de langue. Donc, les gens de l'art, mais la plupart des gens n'arrivent pas à exprimer leurs pensées profondes et leurs émotions dans la langue, française, qui est une langue instrumentale, une langue opératoire, où je vois que la plupart des jeunes, quand je leur dis comment on dit je suis jaloux, comment on dit j'espère, comment je dis, ils savent pas, ils savent sortir, rentrer, ils connaissent un peu les insultes, travailler, etc. Mais pas du tout cette langue que parlent nos auteurs qui sont ici, hein, que ce soit leur langue d'origine ou la langue française. Et c'est vrai qu'à un moment donné de la thérapie, là où je sens que ça prend, justement pour revenir à l'art, c'est là où le silence s'installe. Il y a un silence qui s'installe et surtout il y a le temps qui s'arrête. Vous savez, on est dans une civilisation où on gagne tout le temps du temps. Les gens regardent leur montre. Là, le temps s'arrête dans les groupes de parole, dans la consultation, et la parole prend un aspect poétique. Les mots ont des ailes. Ils atteignent leur cible. Et on est dans une dimension du conte. Quand on est dans la dimension du conte, on n'est plus « il m'a fait, non, il ne m'a pas fait », et dans les reproches réciproques dans une famille, etc., et entre les familles et les institutions. Dès qu'on atteint cette dimension du conte, eh bien, on est au cœur. On est au cœur de la thérapie.
Oui, déjà, en fait, pratiquement dans une dimension artistique.
On est absolument, là, on est vraimentdans une dimension artistique.
La question que je me posais, c'est qu'effectivement, s'il y a un défaut de parole, justement, chez celui qui vient, qui tente de se soigner, si je puis dire, alors que tout l'art de la psychothérapie, précisément, c'est un art de la parole, comment cela peut-il se nouer, je dirais? Absolument. Le corps d'ailleurs aussi.
Alors il y a le corps, puisqu'on est dans une dimension orale, on n'est pas dans l'écrit là par contre, hein. On est dans une dimension de l'oralité où les gens s'expriment. La langue est inscrite dans le corps, il y a des façons de toucher, il y a des façons de regarder, il y a une forme de proximité. Là, tout à l'heure vous disiez qu'ils étaient loin, c'est vrai, je vous sens. C'est terrible pour moi de ne pas regarder vos visages, l'expression de vos visages, etc. Donc là, à ce moment-là, on installe cette proximité, on installe ces formes de salutation, on installe cette forme de rencontre, on se pose, comme on dit chez les Africains, mais on le dit aussi chez les Maghrébins, jemma, on dit on va s'asseoir, gad, on va s'asseoir vraiment. Les Africains disent on va s'asseoir, quand je commence à parler avec eux, on va dire on va s'asseoir, on peut s'asseoir, allez on s'assoit vraiment. Une fois qu'on est assis, les Africains disent paroles lourdes, pas au sens français du terme, mais des paroles qui ont du sens, un sens lourd. Et surtout la traduction. Au départ, les migrants disent « mais moi je parle français ». Donc ils ont une réaction de prestance ou de méfiance par rapport à celui qui continue à leur parler dans leur langue en disant « mais je suis intégré, moi je suis français ». Je dis non, il ne s'agit pas de ça, c'est autre chose. Comment vous dites ça dans la langue? Quelqu'un arrive « je suis déprimé ». J'ai dit « déprimé, vous étiez primé avant, maintenant vous êtes déprimé ». Où est-ce que vous avez attrapé ça? Il dit quoi, la dépression? Non, je dis le mot. Ah, chez un médecin. J'ai un médecin qui a dit déprimé. Alors maintenant, dites-le. Dites-le en arabe, par exemple. Rani hazen. Hazen, triste. Je suis en deuil, carrément. Je suis dans le deuil. Et alors, depuis quand vous êtes en deuil? Depuis la mort de ceci, etc. Et on est...
Et c'est parti.
À chaque fois, on part d'un mot. On dit, une femme maghrébine va dire, depuis que mon fils est en prison, il y a mon foie qui tremble. Alors, le traducteur va dire, et ouais, elle dit qu'il y a son cœur qui tremble. Je dis, non, c'est son foie qui tremble. Alors, les assistantes sociales, ils disent, mais c'est quoi le foie? Le foie tremble? Oui, oui, je dis le foie. C'est le siège de la tendresse filiale entre les parents et les enfants et les parents. Et la dame, au départ, qui était un peu... Elle dit, ne leur traduisez pas si... Hein, les mondes sont complètement clivés. Je dis, non, on va leur traduire quand même. Cette même femme qui était comme prudente par rapport à la traduction, eh bien, c'est elle qui va me dire, Monsieur Salmi, vous n'avez pas traduit tel mot. Elle prend plaisir à cet échange entre les mondes dont parlait Messaoud tout à l'heure. Elle prend plaisir à cette fluidification des frontières. Mais avant de parler de cette fluidité, eh ben, on parle du noyau des cultures, on parle du noyau. On va dire, ben, c'est la tendresse filiale. Et on va dire, ben oui, quand quelqu'un a beaucoup de foi, ma grand-mère disait que quand ses enfants ont très très tard et qu'elle avait peur, elle dit que ne jetterai-je que je ne puisse jeter ce foie au chien parce que j'en ai marre, ce foie il me fait... Elle me dit, oui, parce qu'elle a trop de foie. Il y a des hommes aussi qui ont trop de foie, ils deviennent un peu trop... Les enfants sont gâtés parce qu'il faut durcir son foie. Et puis il y a les chrétiens, Nsara, les Roumis n'ont pas de foie. Et la dame elle dit, surtout ne leur traduisez pas, c'est... Je dis, si, si, on va traduire ça. Ah, l'assistance sociale. Ah, vous dites que nous n'avons pas de foi. Eh ben oui. Mais elle dit, mais nos enfants aussi en France qui naissent ici n'ont pas de foi pour nous. Et je dis, pourquoi, madame? Ah ben, c'est une ethnologue, cette dame. Elle me dit, mais c'est parce que quand ils sont nés ici sur une terre étrangère, ils sont pas nés à la maison, ils sont nés dans une clinique, des blouses blanches, etc. J'étais déjà effrayé lors de la naissance. Il n'est pas né dans une matrice de femmes, hein, c'est avec des hommes. Ensuite, il n'a pas tété le sein longtemps. Chez nous, ça peut aller jusqu'à 4 ans, je ne sais pas combien, 40. Et puis encore, elle me dit, et après, dès qu'ils commencent à grandir, ils vont se plaindre de nous, aux travailleurs sociaux qui leur donnent raison contre nous. Et ça tue le respect. Et donc, c'est comme ça que le foie, et je traduis tout ça, voilà, une femme ethnologue. Et tous les migrants, c'est des ethnologues. C'est des analyseurs de la société française. La migration elle-même est un analyseur de la société française et qui révèle à la fois les richesses, les manques, les carences de cette société. Et pour moi, la souffrance, les problèmes, pour moi, je suis un artiste aussi, pour moi, c'est de la création bloquée, c'est de la créativité bloquée, c'est une sublimation qui n'arrive pas à faire son alchimie. Et donc, pour moi, elle porte une richesse. Apparemment, c'est un problème, mais pour moi, c'est une grande richesse. Parce que cet enfant, quand il va être accompagné, quand il va être aidé, quand on va prendre soin de lui, eh ben, il va devenir poète, il va devenir romancier, il va devenir ethnologue, il va devenir quelqu'un véritablement, un véritable humain.
C'est extraordinaire, parce que déjà, au fond, vous êtes dans une sorte de création commune, de création poétique commune, et ce que vous racontez me fait penser justement, donc, d'ailleurs, à ce que vient de faire Messaoud Ben Youssef, qui a rêvé autour de ce vers de Zelda, et qui en a tiré d'ailleurs des conclusions assez extraordinaires.
Absolument.
On est, je dirais, un petit peu dans le même processus, au fond. Alors, je disais tout à l'heure que vous acharnez, vous évertuez à recoudre ce qui est déchiré. Et je voudrais demander à Kazem Shariari, qui arriverait, comment lui, dans son lieu justement, en bas de cette tour HLM, il s'évertue aussi, par son travail artistique, à recoudre au fond ce qui est également déchiré.
Je suis entièrement d'accord. Bon, Nous sommes responsables de la santé de l'esprit. Et je suis très touché par tout ce que je viens d'entendre, parce que moi, il y a 20 ans, je ne parlais pas un seul mot français.
Oui.
Donc,
Il a fallu que vous vous appropriiez ce...
Voilà, j'ai appris la langue ici, mais ce qui est curieux, je ne me suis jamais senti étranger. Et quand on me disait que je suis étranger, ça me faisait rire. D'ailleurs, j'étais bien à l'aise. Malgré que je ne parlais pas la langue, je n'étais pas étranger. Donc j'avais cette force de faire des constats. Ça veut dire comment je suis reçu et comment je reçois. Et cette différence faisait que, en quelque sorte, je ne comprenais pas. Je savais ce que j'entends, je n'arrive pas à comprendre. Il y a quelque chose qui manque entre ce que j'entends et ce que je dois entendre. Et j'étais, petit à petit, j'étais persuadé que je ne suis pas entendu non plus. Parce que ce que je dis n'arrive jamais à l'oreille de l'autre. Avant que je le dise, il a entendu la fin de ma phrase. Donc cette étrangeté, je suis devenu étranger, si vous voulez, dans le langage déjà. C'est-à-dire, j'ai appris que nous ne comprenons pas du tout. Donc il faut que je choisisse un autre chemin pour être entendu et un autre chemin pour être entendu. Et comme je faisais pas mal des ateliers pour les enfants, pour les adolescents, d'ateliers écriture, ateliers poésie, etc., je constatais ce phénomène que je suis en face de ces enfants, en disons deuxième ou troisième génération. Ce sont des enfants qui n'ont accès ni à la culture française, ni à leur culture. Ça veut dire la mère manquée, la mère qui... son foie, il y avait un sens, sa pensée un autre, sa souffrance un autre. L'enfant était perdu dans cette histoire, parce qu'il n'avait en référence ni une culture, ni l'autre. Il était privé de deux cultures. Alors comment il s'en sort finalement, cet enfant? Et comment il va aimer les mots? Comment il va inventer? Alors, j'ai constaté que, petit à petit, j'ai constaté que ma place, c'était... au même niveau que ces enfants-là. Parce que je ne parlais pas bien français non plus. Donc je venais arriver et je disais à tout le monde, je parle anglais, vous parlez anglais, en anglais, bien sûr. Et ils me disaient, non, on ne parle pas anglais. Faites un effort. Je dis, je suis en train d'apprendre, mais... En plus, je disais, je suis écrivain, tout le monde riait. Alors c'était fantastique, comme ces enfants qui vont passer l'examen. Et j'ai mis beaucoup de temps pour comprendre que, dont les bases étaient petit à petit... Comprendre que le monde de travail en France, c'est un monde déjà exclu de la culture. Et le monde d'étrangers, les étrangers, ce qu'on appelle les étrangers, les migrants, sont dans les bas étages de ce monde de travail. Et la vraie faiblesse de nous, la vraie faiblesse de ces immigrants, c'est le monde, la faiblesse du monde de travail, parce que nous ne sommes pas défendus par ceux avec qui on vit. Finalement, nous sommes ignorés par nos voisins d'abord. Et puis, bon, si nous sommes ignorés par les institutions, ça c'est une autre chose. Parce que lorsqu'on nous parlons de l'institution, il faut immédiatement comprendre la question politique et l'historique de la France et cette culture coloniale qui est installé dans nos pensées. Hein, aujourd'hui, on discutait avec un ami, je disais finalement, nous sommes tous des bourgeois un peu capitalistes, même si nous luttons contre. Toute la difficulté, c'est comment inventer quelque chose qui ne ressemble pas à ce conformisme qui nous permet de manger, travailler et avoir un peu de confort. Alors, donc, cette culture coloniale qui est là, qui règne partout, est oubliée ou est ignorée par le monde de travail. Et dont les bas étages du monde de travail, un artiste, un exilé, un combattant ou un immigré, un travailleur simple, que nous sommes tous à la recherche de la liberté, sans exception, il n'y a pas de différence entre un intellectuel et un ouvrier simple.
Il y a un technicien de surface.
Voilà.
Ça s'appelle comme ça, les balayeurs, c'est des techniciens de surface.
Donc ça venait de ce monde de travail. Alors, pour moi, j'aurais dû tout inventer. C'est-à-dire, d'abord, je devais inventer ma langue française. Parce que ma langue, apparemment, de manière concrète, ce n'est pas la langue française que tout le monde parle, puisque j'écris et je publie. Alors, donc, et aujourd'hui, je parle de ça, et je défends cette idée que chaque écrivain doit inventer sa langue. D'ailleurs, vous l'avez bien souligné. Et c'est l'essentiel pour un poète, avoir sa langue de poésie. Et à travers de cette langue de poésie, qu'il peut parler de son originalité. Alors, À travers de ça, j'étais presque obligé de m'enfermer autour d'un lieu à part. Parce que comme j'avais une expérience assez importante dans le théâtre, très vite, j'étais accueilli par Antoine Vitesse. Très vite, j'ai travaillé dans le théâtre de la ville et que, bon, j'avais une convention dramaturge pour 9 mois. Bon. Aujourd'hui, je sais ce que ça signifie. À l'époque, bon, théâtre de la ville, bon, j'ai travaillé dans l'opéra de Téhéran, il y avait 2000 spectateurs, bon, ça me faisait ni chaud ni froid. Hein, l'idée, c'était qu'est-ce que je vais monter ce mois-ci? Et quand on vient m'arrêter, parce que je vais monter ceci. Et ici, c'était finance. C'est-à-dire que lorsque je suis arrivé ici, on me dit, monsieur, on vous donne pour un an 800 francs par mois. Après un an, vous allez vous débrouiller. Donc vous ne parlez pas la langue, tant pis pour vous, débrouillez-vous. Voilà. Mais une fois, après un an, j'étais engagé par de la ville, 800 francs devenaient 15 000 francs. Tout d'un coup, je me disais, bon, un petit confort, c'est bien, on va construire maintenant, on va avoir une maison. Mais au bout de 9 mois, je n'ai pas pu tenir, j'ai démissionné. Et quand on m'a dit, pourquoi tu t'en vas? Je dis, si je reste ici, j'ai peur de tirer une balle dans ma tête. Il me faut un lieu à moi. Et tout ceci, ce n'était pas après une réflexion longue. Je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas faire autrement. C'est comme ça que j'ai inventé Art Studio Théâtre, un lieu que je loue et que je paye le loyer tout le mois. Et qu'aujourd'hui, je sais, c'est un poids énorme sur mon dos. Et pour la création d'une pièce de théâtre, que ce soit les miennes ou les autres, c'est toute une lutte. Pour rassembler de l'argent, pour les salaires des acteurs, etc., etc. Voilà. Donc là, l'idée d'inventer son propre lieu m'a permis d'inventer ma langue. Et à travers de ma langue, j'ai construit un monde que je dis aujourd'hui, que les gens qui ont vu mon travail, ils peuvent dire que Kazem a un monde. Oui. Et je pense que c'est juste.
Ce qui est le propre, je dirais, de tout artiste.
Ouais.
Et en même temps, je comprends mieux maintenant aussi... l'image que vous avez utilisée tout à l'heure dans votre texte, lorsque vous parliez de ces murs qui vous enserraient. Hein, et vous êtes effectivement, et tout artiste, quelque part, doit être dans cette recherche, ça me paraît très important dans ce que vous venez de dire, doit être en recherche au fond d'un sentiment d'étrangeté aussi, hein, qui est tout à fait nécessaire, et ça rejoint un petit peu d'ailleurs ce que disait tout à l'heure, quand il parlait de la faute de syntaxe. Au fond,
c'est Aragon qui dit
ça. Oui, non, mais c'est intéressant parce que, bon, j'ai dit que vous évertuiez les uns et les autres à recoudre, et en fait, quelque part, il faut trouver les ouvertures et les déchirures pour s'y infiltrer. Hein, c'est une sorte de renversement, je dirais, que nous devons quelque part opérer.
Oui, je vais. Si tu permets, Jean-Pierre, je vais quitter un petit peu le territoire de la chanson et surtout de la spéculation sur la chanson. Pour en revenir au mot intégration, je voudrais faire part de, non pas d'une expérience personnelle, mais de ce qui est ressorti un petit peu à ma vie. Moi, le mot intégration ne me dit rien. Le mot qui me dit plus, parce que c'est le mot qui a enfanté le mot intégration, c'est le mot assimilation. Moi, j'appartiens à une génération où, en Algérie, on était l'objet de ce qui a été appelé l'assimilation, la politique d'assimilation des populations indigènes ou allogènes, peu importe. Il s'agissait des indigènes. Et si on devait faire un petit peu l'archéologie des mots, on pourrait exhumer à propos du mot assimilation, je crois, des tonnes de documents et d'archives sur les débats extraordinaires que ce mot a occasionné. Alors, pour le dire très rapidement, ne vous inquiétez pas, j'ai pas l'intention ni d'ailleurs les moyens de vous infliger une archéologie du savoir assimilationniste. Je dis ça parce que lorsque les derniers événements d'Algérie, c'est-à-dire lorsque cette décennie sanglante 90-2000 qui a vu ces affrontements sanglants entre Algériens, un premier ministre en exercice de la République algérienne, démocratique et populaire, n'avait pas craint un soir, et au journal télévisé, c'est-à-dire au moment de la plus grande communion nationale, tout le monde écoute le JT à 20h, vous pouvez être sûr que là vous touchez tous les Algériens et toutes les Algériennes. Et bien sûr, ce Premier ministre avait dit, et il savait très bien ce qu'il disait et ce qu'il voulait de ce qu'il voulait obtenir comme résultat. Il voulait désigner, en d'autres termes, aux tueurs qu'on assimile aux intégristes islamistes très rapidement, parce qu'il n'y a pas que des intégristes islamistes. Parmi ceux qui tuent, il y en a d'autres qui se cachent derrière des intégristes, qui les utilisent, qui les manipulent, et d'autres qui ont partie liée avec des franges du pouvoir algérien. Bon, ça c'est une autre histoire. Je reviens au mot assimilation. Ce Premier ministre a dit, on n'a pas été sûr qu'il ait été compris, mais il avait dit, il avait exhumé à notre grande stupéfaction, à nous. Nous, les gens de ma génération, hein, qui savions ce que ce terme signifiait. Il a dit, en d'autres termes, tout est la faute des laïco-assimilationnistes. Désignant donc une frange de la population très clairement identifiée, autrement dit, ceux qui ont été assimilés par la culture française ou qui se sont assimilés à la culture française. Il les a désignés à la vindicte des tueurs. En d'autres termes, le deal qui était passé comme ça, sans vergogne, au plan national, c'est nous, c'est le FLN, encore dirigeant, nous, mes chancelants, nous et vous, nous pouvons nous entendre, à condition d'éliminer ceux-là avec qui ni vous, ni nous ne pouvons nous entendre. Et ce mot assimilation était revenu, et depuis d'ailleurs, comme toujours, ce sont des mots qui me font réfléchir. Ce sont des mots, ce sont des mots M-A-U-X. Moi, c'est des mots M-O-T, mais c'est la même chose au fond. Parce que le mal n'existe pas sans le mot pour le dire et le nommer. Et ce retour du mot assimilation à assimilationnisme m'avait fait beaucoup réfléchir, évidemment, et j'avais intérêt à réfléchir. Aujourd'hui, à l'occasion de ce petit débat, il me revient en tête. Il me revient en tête parce que le mot intégration, je le vois, moi, je l'ai vu venir, moi, comme un substitut au mot assimilation. Lequel mot assimilation avait de forts relents colonialistes. Et il n'était plus en odeur de sainteté, et ça n'était plus de bon temps de parler d'assimilation. Ça n'était plus politiquement correct, parce qu'assimiler veut dire rendre par la force semblable, exactement comme faisait l'empire tsariste russe, qui russifiait, on se souvient tous de nos leçons d'histoire, la russification des pays allogènes par le tsar. Donc le tsar, quand il conquérait des populations, particulièrement l'Asie centrale, les Tchétchènes entre autres, il les russifiait, c'est-à-dire qu'il les faisait semblables aux Russes. Mais une fois que ces populations, c'est très cynique ce que je vais dire, une fois que ces populations étaient russifiées, qu'elles devenaient russes, qu'elles se comportaient comme les Russes, ben elles avaient la paix. Elles étaient russes. Et elles avaient la paix. C'est tout ce qu'on leur demandait. Autrement dit, on leur demandait ça, ce qu'a fait la Révolution française, en francisant les Bretons, etc., etc. À un moment, donc, il n'a plus été... Je pose la question de savoir si ce mot assimilation et si la pratique qu'il recouvre ne devrait pas de nouveau redonner à réfléchir. Pourquoi à réfléchir? Parce que ce qu'on a mis à la place, ce mot intégration, et le contexte général, anthropologique, culturel, philosophique, politique, dans lequel le mot a jailli, est sorti, était celui de la lutte pour l'affirmation des différences. Dans les années 70, 80, qui a été, je crois, l'acmé, le summum, l'apogée du débat, c'était « vivons avec nos différences ». On poussait les gens à cultiver leurs différences. Et c'était même bien vu et bien mené, d'ailleurs, par des formations politiques de gauche, qui ne s'avisaient pas qu'à côté d'elles, mais dans des officines discrètes, se menaient exactement le même type de débat. Ces officines discrètes, ce sont elles qui ont produit le différentialisme culturel. Je fais référence ici, par exemple, au club de l'horloge en France, où au même moment où la gauche disait « vivons avec nos différences » et on poussait chacun à cultiver sa différence aux dépens de la culture de la ressemblance, parce qu'il y a une culture de la ressemblance qu'il faut remettre à l'honneur, de mon point de vue, c'est mon avis depuis toujours, la culture de la ressemblance a été battue en brèche par la culture de la différence. Il ne faut pas s'étonner. Alors que surgisse ce problème qu'on appelle identitaire, parce que ça aussi, ça verse dans la même problématique générale. Le club de l'horloge, d'où est issu un nommé Bruno Maigret, et d'autres encore, et qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit, etc. Pourquoi ? Parce que sa fille, justement, n'a pas une divinité, un noyau, à l'intérieur d'elle, tranquille, qui puisse être partagé avec les autres. Et donc il faut faire attention à cette différence entre culture et culture idéologisée. Même les ethnies aujourd'hui, on parle de lutte ethnique, etc. C'est pas vrai, c'est pas toujours les ethnies qui se battent à mort, qui font preuve de génocide, etc. C'est des ethnies en Afrique et partout ailleurs, ou des fragments d'ethnies qui squattent l'appareil du pouvoir, qui prennent tout pour elles et qui excluent les autres. Et après, la sémantique de l'État-nation français ou des autres, lutte interethnique, etc. C'est pas vrai. C'est des luttes aussi pour l'égalité. Donc là, je viens à l'égalité et l'identité. Là aussi, il y a une confusion entre identité, égalité, similitude dans l'égalité. Mais l'identité, c'est un bien. C'est vrai que c'est un mot galvaudé, je sais plus ce qu'il veut dire, identité, être la même entité. C'est-à-dire être le même à travers le temps et l'espace, avoir un certain noyau comme dit Spinoza, persévérer dans son être. Mais on peut le remplacer tout simplement par une certaine culture, une transmission. Cette transmission, elle peut être arménienne, juive, arabe, etc. Et les gens véritablement qui arrivent à s'intégrer, c'est-à-dire à intégrer les deux mondes, c'est ceux qui ont déjà quelque chose en eux. Donc le mot intégration à ce niveau-là, ça suppose qu'il y a deux cultures, et on va essayer de les articuler, de les intégrer. Assimiler, c'est autre chose, c'est perdre, c'est tout simplement, on est digéré par l'autre culture. Mais intégrer, c'est autre chose. Et justement, moi, la question qui se pose toujours à moi en tant que thérapeute, je le prends autrement, ce mot intégration. Je dis, comment cette personne qui vient d'arriver de Chine, ou qui vient d'arriver du Sénégal et d'ailleurs, peut, en un laps de temps si court, intégrer à l'intérieur de lui ce que des générations et des générations ont construit en France. Et je leur dis d'ailleurs, quand les gens sont, les Français par exemple, ils sont impatients par rapport, mais ils vont bien disparaître, c'est que ces différences, etc. Je dis, vous êtes pressés. Mais c'est une richesse, justement. Et je leur dis, c'est comme si vous sous-estimez votre culture. Ça veut dire que n'importe qui peut arriver, il peut avaler tout, la langue, la culture, l'héritage romain de cette culture française, si on parle des Français, l'héritage celte, etc. Toute cette construction depuis la Révolution française, les Lumières, etc. En un laps de temps aussi court. Ils ne peuvent pas. Parce que moi, j'ai affaire à des différences saillantes. Je veux dire, quand je reçois quelqu'un qui vient de l'Afrique, par exemple, qui vient du Cameroun, du Congo, et le juge, il va convoquer le père de cet enfant qui est en fugue. Ben, le père n'est pas le véritable tuteur. Ils sont dans un système patrilinéaire où c'est les frères de la mère qui répondent, qui sont les vrais responsables. Et je peux vous raconter mille et une histoires incroyables de malentendus culturels sur toute la ligne. La France est un pays judiciarisé, où à chaque fois la loi vient prendre la place. Pourtant, c'est un pays philosophique. La plupart des cultures du Sud, c'est des cultures plutôt où prédomine l'initiation. Le père répond sous une forme énigmatique, hermétique, etc. Et 10 ans, 20 ans plus tard, l'enfant va s'écrier « Ah, j'ai trouvé, Reca, c'était donc cela que voulait me dire mon père ou ma mère ou mon grand-père. » Ici, on est dans des sociétés pédagogiques. Et donc, moi, j'ai affaire véritablement à ces différences saillantes et à ces malentendus sur toute la ligne. Par exemple, un juge qui place un enfant et qui dit au père maghrébin, écoutez, si vous me promettez de ne plus lever la main sur lui, je vais vous restituer l'enfant, etc. Et le père, qui est de culture orale. Hein. Il faut se prendre conscience de cela. C'est tout. On a des artistes ici, des écrivains, mais la majorité vient de ces cultures-là. Et il dit, eh ben gardez-le. Et le juge interloqué me répond, mais pourquoi il me répond gardez-le? Je dis, c'est en vertu de sa structure patrilinéaire. Si c'est vous qui donnez conseil au père lui-même, si vous êtes plus soucié de son fils que lui-même, à ce moment-là, gardez-le, vous êtes en lieu et place du père. Vous êtes en lieu et place de l'ancêtre, vous êtes en lieu et place de l'oncle, du frère aîné. Alors il me dit, je lui dis, mais qu'est-ce qu'on répond? Je lui dis, on va lui dire s'il a un frère aîné. Je dis, vous avez un frère aîné? Il dit oui. Il est à Paris? Oui, par chance. On peut lui parler? Oui. Et tout se dénoue immédiatement. Tout se dénoue. Et un jour, j'ai reçu un enfant pour vous parler de ces vraies différences qui sont des analyseurs pour les autres petites différences, moins fortes, mais aussi quand même qu'on peut mettre en relief. On m'a ramené un jour un enfant qui a été brûlé par la sœur de son frère aîné. Brûlé au fer. Donc, injonction du juge pour qu'il fasse une thérapie. Et j'apprends que cet enfant, à un moment donné, une fois qu'on commence à entrer dans ce noyau culturel, cette femme, elle me dit, oui, il a dit qu'il était un sorcier. Et c'est vrai qu'il faisait boire des potions qu'il fabriquait de sang cru, etc. Et cette femme a pensé que c'était véritablement un enfant sorcier. Or, connaissant l'Afrique centrale, je sais que personne ne se dit sorcier. On est toujours accusé de sorcellerie, mais on ne peut pas se dire sorcier. Donc, dans ce cas-là, l'équivalent en psychopathologie de sorcier, ça veut dire « je vais être tué », parce que si quelqu'un dit « je suis un sorcier », on le tue, et c'est ce qu'elle a fait, elle a pris au mot. Et donc, si quelqu'un a envie d'être tué, il est quoi? En termes de psychopathologie, il est mélancolique. Et on m'apprend effectivement qu'il a été en vacances, et il a plongé tout seul dans la piscine au risque d'être noyé. Et donc ça a confirmé cet aspect suicidaire de. À ce moment-là, donc j'ai appris qu'il était l'objet de rapt entre la lignée patrilinéaire, la lignée du père qui est patrilinéaire, et la lignée de la mère qui est matrilinéaire. Il y avait de la sorcellerie et son père est mort dans cette guerre de sorcellerie au Congo. Et c'est comme ça qu'il a été amené en France, etc. Bon, c'est des histoires, c'est des centaines que j'ai d'histoires comme ça, autour de ces vraies différences. Donc l'idée, comment est-ce qu'on peut accepter d'abord ce qu'est une personne? Parce qu'on dit, on a encouragé les différences. Je pense pas du tout qu'on a encouragé les différences. C'est faux. On les a pas encouragées. Ou si on les a encouragées, on les a encouragées dans un sens idéologique, dans le sens du ghetto, allez, entre vous, cultivez vos dits. Pas entre nous. Moi, quand j'interviens comme médiateur, comme animateur de groupe de parole, les gens me disent, vous pouvez animer ce jeudi avec vous. Je fais le lien. Avec vous, avec les professionnels, dans la traduction, dans le lien. Je ne parle pas au mien, ou supposé être mien, tout seul. Je fais pas dans ce différentialisme d'en parler, Massaoud. Je fais le lien, je partage ces différences, je partage ces contenus et surtout je les désidéologise, hein, et puis que les gens se révèlent dans la transmission véritable. Et je dis souvent aux migrants, vous êtes venus en France, qu'est-ce que vous apportez à la France? J'encourage plutôt dans ce sens, vous voulez prendre, mais qu'est-ce que vous leur apportez? Et on ne peut pas nier ici que nous sommes, que chacun de nous a apporté quelque chose. Qu'est-ce que vous avez apporté à la France? Alors là, eh oui, je vais m'interroger sur ce que j'apporte à la France. Et maintenant, qu'est-ce que vous avez envie de partager? Voilà, c'est dans ce sens du partage. Mais à aucun moment, je ne pense qu'il y a eu un encouragement au vrai partage culturel. Il n'y a pas eu de vrai partage culturel. Il y a eu une confusion entre égalité et identité. Et comme dit Messaoud, il est possible que des personnes ont manipulé ce mot identité pour mieux porter atteinte à l'égalité. Et d'autres ont encouragé la différence pour, évidemment, encourager les ghettos et peut-être susciter de l'autre côté un différentialisme raciste du côté de l'extrême droite. Et donc, à ce moment-là, c'est les deux pôles qui s'entrechoquent. Mais comment créer aujourd'hui, c'est l'objet de notre rencontre, créer des espaces, des vrais espaces interculturels où la parole circule, où les gens se disent. Et à chaque fois, je me rappelle de ces vieux ou moins vieux, hein, africains ou nord-africains qui me disent, hier soir j'étais dans un collège à Montreuil, Et les profs, ils ont dit, mais ils vont pas venir, les parents, etc. Je dis, écoutez, moi, je peux pas les faire venir, mais s'ils sont là devant moi, je vous assure que ça va bien se passer. On va vraiment poser les choses, etc. Ils sont arrivés et c'était une révélation pour les profs. Et encore, hein, les Africains sont très forts. Hein. C'est souvent des griots, c'est toujours eux qui expriment les paroles, les vraies paroles de sagesse. Ils disent, voilà, c'est ça que nous voulons, c'est cet échange. On a soif de cet échange. On a soif que l'Asiatique, le Chinois, avec toutes les ethnies, etc., l'Africain, le Nord-Africain. Et moi, je dis, vous êtes d'où? Vous êtes du Mali, vous parlez Soninké, vous parlez Bambara, vous parlez Sanra, et ben vous appelez Maïga, vous devez être Sanra. Et un grand sourire s'affiche comme ça. Ah, vous connaissez? Et vous vous appelez comment? Adama. Ah, donc vous avez une sœur jumelle. Awa. Ah, mais vous connaissez? Et puis, de plus en plus, ils y vont. Et les Français sont ravis, ils apprennent aussi énormément de choses. Ce que je vais vous dire, on arrive souvent, c'est ça mon expérience, j'arrive dans un lieu où on a un regard réifiant, chosifiant, où tout le monde est en carence, tout le monde a à recevoir, comme ici, je suis supposé vous apprendre des choses, alors que c'est, la richesse se trouve de l'autre côté. Et à chaque fois donc, que j'arrive dans une classe, dans un groupe, etc., c'est une révélation. Les profs me disent, l'autre fois j'avais... Je viens à menu comme ça, une classe, on dit il y a quelqu'un qui va vous parler de l'interculturel, etc. Il me dit, moi je m'appelle Chinese par exemple, qu'est-ce qu'elle me disait Gilani. Je dis Gilani. Ah, c'est Gilana. Ça se trouve au Niro. C'est la patrie d'Abdelkader, le grand saint qui s'appelle Sidi Abdelkader, etc. Un grand sourire, les profs ils apprennent. Je dis, toutes ces richesses, on n'a pas besoin de livres, elles sont là. Et c'est incroyable, c'est cette révélation des richesses, quand on, justement, on s'ouvre à la vraie différence. Mais en général, c'est très très difficile de s'ouvrir à la différence chez l'autre. Et comme disait donc Kazem, à la différence en nous, cette différence, parce qu'on a envie d'être tout le temps dans la mêmeté, dans l'identité. Identité, ça veut dire mêmeté. Et à chaque fois que je change quelque chose chez l'autre en tant que thérapeute, je m'aperçois que j'ai changé aussi. Donc voilà, identité, échangement et partage.
Et partage. Voilà. Donc, merci. Ben, tout cela est passionnant. Et vous voyez le chemin parcouru, puisqu'on est parti de cette notion de... Enfin, cette idée d'intégration, on est arrivé à la description des différences et on arrive maintenant au partage. Alors, partageons, si oui. Vous voulez bien. Vous vouliez intervenir, madame.
Oui, absolument.
C'est simplement la reconnaissance de l'autre reconnaissance, que vous disiez. Ouais.
Mais reconnaissance, différence, précisément.
Reconnaissance.
Voilà. Ça n'empêche pas, une fois qu'on a reconnu l'autre, d'aller dans le sens de ce que disait monsieur.
Bien sûr.
Oui, non, mais les propos ne sont pas...
Sont pas antinomiques.
Je pense que Hamid Salmi a bien montré justement le côté idéologique de...
Oui, juste de sur ce... Excusez-moi, juste sur ce point, idéologie-culture, le débat est tellement énorme en soi,
énorme.
Pas l'aborder.
Oui, non, mais là, on ne va pas l'aborder.
Mais, contrairement à ce que l'on peut dire... La culture ne peut pas être détachée d'une idéologie. Elle est partie intégrante de l'idéologie. Parce que l'idéologie, c'est le système de représentation symbolique. Et la culture en fait partie. On ne peut pas traiter la culture sans faire les liens, ou en tout cas les reconnaître et les identifier avec une certaine représentation du monde. Si vous parlez, je ne sais pas moi, si vous parlez d'un Africain... un Algérien ou un musulman, mettons, hein, qui est ici en France et qui, dont on veut respecter la culture, et qui a une culture respectable en soi, et qui veut, je dis ça, bon, je vais vous dire pourquoi je le dis, et qui veut avoir 4 femmes, on peut évidemment respecter sa culture, mais il faut quand même reconnaître que cette culture-là, elle est partie liée à une idéologie, à une représentation du monde et de la société. Qui est quelque chose que, par exemple, moi, je n'accepterais pas. Et tout à l'avenir, on peut multiplier les exemples. Je disais ça parce que, historiquement, les Algériens, lorsqu'ils demandaient, avant de demander l'indépendance de leur pays, le mot d'ordre de l'indépendance est venu très tard, tardivement. Mais le premier mot d'ordre des Algériens les plus avancés, c'était l'assimilation. Ils demandaient à être assimilés, et dans leur tête, l'assimilation avait un sens très précis. Être assimilé voulait dire jouir des mêmes droits que les autres, être un citoyen.
Égalité.
Et lorsque la délégation, ça c'est ce point d'histoire que je voulais vous dire, je m'arrête tout de suite là, parce que ça me semble très important de le dire. Une délégation de ce qu'on a appelé le Congrès national, le Congrès musulman algérien, qui était une sorte de front, de parti, vous trouverez ça dans tous les bons livres d'histoire, a été reçue par le Front populaire, par Léon Blum, et par son ancien gouverneur des colonies, Maurice Violette, qui connaissait très bien l'Algérie, qui avait préparé un plan pour lui, pour l'Algérie. Qu'ont demandé les représentants algériens, et à leur tête, le représentant des oulamas, c'est-à-dire des religieux, qui était le cheikh Ben Badis. Eh bien, c'était le seul à demander l'assimilation, en demandant à Léon Blum, mais avec le maintien du statut personnel. C'est-à-dire que vous nous considérez, nous devons être des citoyens français, jouir des mêmes droits, des mêmes devoirs, mais pour ce qui concerne notre statut personnel, c'est-à-dire les affaires du mariage, de la famille, de l'héritage, etc., à respect. Eh bien, c'est ça qui est arrivé en Algérie jusqu'en 1962. C'est une assimilation avec statut personnel, qui ne disait pas son nom, évidemment. Mais c'était bien ce qu'avait dit le cheikh Ben Badis en 1930. Et c'est quelque chose qui est resté en Algérie comme une véritable bombe à retardement qui fait qu'aujourd'hui, on a le statut de la famille en Algérie, le statut de la femme, qui contredit une constitution par ailleurs tout à fait progressiste, démocratique et moderne, mais qui fait de la femme un être inférieur, qui fait de la femme soumise à son mari, sinon à son fils, sinon, etc., qui fait que la femme n'hérite pas comme l'homme, qui fait qu'on ne sort pas de cette contradiction. Et qui fait que si on continue, à Ottawa, ces jours-ci, je lisais dans la presse, le gouvernement régional, je ne sais pas comment ils appellent ça, il a tout simplement, sur la demande pressante des organisations islamistes, il veut leur conférer la gestion du statut personnel. C'est-à-dire que les ressortissants canadiens, enfin les Canadiens, qui se déclarent musulmans, ne seront plus passibles des tribunaux canadiens, mais de juridictions musulmanes, qui appliqueront la charia. C'est dans les tuyaux du gouvernement québécois, enfin, à Ottawa. Et je tiens le pari que, dans quelques temps, ici en France, c'est aussi une revendication qui va se mettre sur les rails.
Seulement, j'ajoute, c'est une loi qui n'a pas été votée grâce aux femmes iraniennes.
Absolument.
Qui se sont opposées.
C'est très juste. Et des délégations de femmes iraniennes.
Bien, mais écoutez, je vous propose qu'on se retrouve au moment où tout ça sera dans les tuyaux, comme dit mais en tout cas, vous voyez l'ampleur de ce... De cette question-là, Marcos veut dire un
oui.
mot.
Non, je pense qu'effectivement, et en me trouvant de ces côtés-ci, je trouve qu'effectivement la question elle est grande, posée sur l'intégration. Mais en même temps, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été dites par vous, qui sont essentielles, qui répondent quelque part comme un commun dénominateur pour tout ce qui implique l'intégration elle-même. Et je pense justement à cette notion que vous disiez sur cultiver cette différence, et parce que je pense que c'est à partir de cette différence intérieure qui s'établit le dialogue. Mmh. Je pense qu'on a un passé à peu près commun avec toi, parce que de la même façon, je suis arrivé il y a 23 ans ici en France et je ne parlais pas un mot des Français. Donc on est confronté à la langue et quelque part, effectivement, on essaye de faire partie. Et moi, c'est en ça que je trouve que la notion d'intégration, je considère qu'elle n'est pas si mauvaise, parce qu'elle permet de garder en soi son identité. Et rentrer en dialogue avec cette société en partant de soi, sans nier ce qui en est. Et je pense que de toute façon, la problématique se pose, comme vous disiez, lorsque on est morcelé dans sa culture. C'est-à-dire lorsqu'on est entre deux cultures, mais sans être assis dans une, vraiment. Et c'est là où on devient intégriste. Parce qu'on a besoin d'affirmer quelque chose, que si on a cette différence intérieure, on n'a pas besoin de l'affirmer, effectivement. Et je pense, en ce qui concerne le théâtre lui-même, puisque j'écris aussi pour le théâtre, n'est-ce pas, je crois que quelque part, c'est en allant vers mon identité intérieure que je mieux dialoguer avec la culture en France, que je peux dialoguer avec le public, donc intégrer, faire partie de quelque chose, n'est-ce pas? Et moi, je pense qu'on n'est pas si loin. Enfin, je trouve qu'effectivement, il semble assez grand les débats, mais il y a des choses extrêmement essentielles qui ont été dites par vous et qu'ils sont un commun dénominateur pour comprendre peut-être où est-ce qu'on pourrait éventuellement toucher pour savoir qu'est-ce qu'on entend par intégration. Et je pense qu'ici à Bagneux, par exemple, chez les jeunes, lorsqu'on travaille avec eux, ce qu'on remarque souvent, parce que nous on a un travail depuis 3 ans ici dans les quartiers sud, ce qu'on remarque souvent, et je pense, s'il n'est pas parti, non. Bon, et il y avait un animateur du quartier sud ici, il pourrait nous dire qu'effectivement les problèmes chez les jeunes se trouvent chez les jeunes où, quelque part chez eux, on les a demandé d'oublier leur culture. Et on les a dit non, mais toi tu es français, tu n'as rien à voir avec là-bas. Et finalement, quelque part, c'est là où se trouve cette fossé qui crée vraiment, vraiment un malaise profond chez les jeunes ici.
C'est l'histoire des racines.
Oui, tout à fait. Donc, voilà. Ah oui. Juste cas, un point d'ordre. Donc,
une question. Oui,
bonjour, je m'appelle Hachim Ali Saïd, je suis de Bagneux. Je suis musicien, compositeur, interprète, et je suis intéressé aussi par toutes ces questions d'intégration, de double culture, etc. Effectivement, vous avez soulevé un certain nombre de questions au tout début du débat, qui est lorsqu'on pose la question d'intégration, de fait, déjà, vous posez un mur. C'est-à-dire que vous considérez que l'autre n'apporte pas quelque chose et qu'il doit rentrer dans quelque chose. Et vous, de fait, vous mettez un mur entre les deux personnes, donc il y a déjà une contradiction énorme. Voilà. Donc c'est quelque chose que j'ai noté au tout début, je me suis dit, ah, c'est intéressant, il y a une question fondamentale qui est posée. On va peut-être pouvoir discuter sur ça, parce que c'est ça l'essentiel. Voilà, donc j'ai entendu plusieurs interventions très intéressantes aussi, comme disait Marcos Malavia, et qui ont soulevé pas mal de questions, voilà. Sur la chanson Zebda, j'ai bien aimé aussi, que bon, où est la solution, voilà. Ben oui. En fait, ça revient un petit peu à la question qui a été posée au départ. C'est-à-dire que, bon, arrivé à un moment donné, je suis intégré, mais où est la solution? Je suis arrivé d'Algérie, puisque c'est le cas de Zebda, depuis des années, donc j'ai fait des études, ou pas d'ailleurs, mais j'ai appris à vivre dans la société française. J'ai appris à dire, à écrire des chansons, à avoir des amis, à vivre en société, à respecter les autres, etc. Eh bien, on considère que je ne suis toujours pas français. Voilà. Je pense que c'est une question aussi qui est soulevée dans cette chanson aussi. Même si, bon, c'est pas écrit de manière explicite, mais en creusant un petit peu, on peut retrouver ça. Et ce sont des questions qui sont posées encore aujourd'hui et qui apparaissent. Voilà. Et je pense qu'il y a un problème aussi sur la question même d'intégration qui est utilisée. Moi, je vous dis tout de suite, je pense qu'on s'est complètement trompé sur le mot intégration. On utilise le mot à tort et à travers Moi, je vous dis tout de suite, je n'aime pas du tout ce mot. Voilà. Et parce que le mot crée, comme je disais tout à l'heure, une différence déjà. Alors, je vais donner un exemple très précis. Lorsque je suis arrivé en France, donc, je ne me suis pas du tout senti étranger parce que je n'ai pas cherché spécialement à m'intégrer. Pourtant, je connaissais le mot. J'ai appris la langue donc, de Montesquieu, la langue des deux grands philosophes français. Et j'ai appris la langue de Mozart aussi, la musique. Depuis les Comores. Et donc, lorsque je suis arrivé, j'étais déjà, on va dire, entre guillemets, armé, un petit peu. La seule chose qui était pour moi étranger et qui m'interpellait, enfin, les seules choses qui m'interpellaient, parce qu'il y en a pas mal, c'est effectivement de me trouver dans un espace qui était complètement différent, avec des immeubles assez importants. Et puis, je remarquais aussi différences culturelles aussi. Par rapport aux habitudes qu'on prenait, par exemple, aux Comores, quand on voyait une voiture ou des fameux 404 qui passaient comme ça et qui avait qu'une seule personne, on les arrêtait et puis automatiquement, le chauffeur s'arrêtait et prenait la personne parce qu'il était tout seul. Il était tout seul, donc c'est automatiquement la personne doit s'arrêter pour prendre quelqu'un s'il y a de la place. Et ici, une des choses qui m'a aussi interpellé, c'est que j'avais vu une voiture passer, ça faisait à peu près 2 ou 3 mois que j'étais là, il y a donc 20 ans. Donc j'ai vu une voiture passer, la personne était toute seule, je l'ai arrêtée et la personne s'est pas arrêtée, j'ai pas compris pourquoi. Mais pourquoi elle s'est pas arrêtée alors qu'il était tout seul? Voilà. Ça c'est une question que je me posais aussi, voilà. Alors donc, je voulais juste revenir par exemple ce qui a été soulevé par Marcos aussi, c'est que il y a. Je pense qu'il faut remarquer, ce sont les pertes de repères, en fait. Que la plupart des enfants, voilà, issus, on va dire, qui sont nés ici en France, ou non, plutôt les enfants qui sont nés à l'étranger, ou des personnes comme moi qui sont nées, issues de l'immigration, souvent ont perdu, certains ont perdu leurs repères, oui. Et souvent, c'est un facteur de perdition. On n'arrive pas très bien à saisir. Lorsque souvent, quand on arrive, et que ça fait pas très longtemps qu'on arrive dans le pays qui est censé nous accueillir, on ne sait pas par quel bout prendre, en fait. Parce que, comme je disais tout à l'heure, de fait, on vous dit, vous devez apprendre ceci, vous devez faire cela. Ahmed l'avait bien dit, qu'après tout le parcours qu'il avait... suivi depuis l'Algérie, quand il est arrivé ici, il a dû se dire, oulala, avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris, il faut que je réapprenne encore, à vivre. C'est comme si j'étais né de nouveau, voilà. C'est un petit peu l'impression que j'ai vécu ça aussi, un petit peu, voilà. Et donc, je pense que il y a une question à se poser véritablement sur cette façon de dire, de présenter les choses que bon, je pense qu'il y a une pensée coloniale encore qui est restée ancrée dans les esprits de nos dirigeants ou de manière inconsciente de certaines dans la société tout simplement, dans les institutions, etc. Voilà, le fait de dire bon, vous êtes comme ceci, cela, vous êtes noir, arabe, etc. Donc, vous avez besoin d'apprendre certaines choses, vous avez besoin d'apprendre à vous exprimer, à vivre comme les Occidentaux, à vivre telle ou telle façon, sans faire un effort réciproque. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Mais le problème maintenant, merci de votre intervention, vous avez
parlé. Et je voulais juste terminer une chose.
Ah, pardon.
Voilà, juste une dernière chose qui va, je pense, dans ce sens-là. J'ai un ami musicien... qui s'appelle Laurent Larcher, souvent il n'arrête pas de dire, qui a des parents antillais et qui est complètement français, il n'est pas né aux Antilles, voilà. Il n'a pas besoin de s'intégrer. Et il a l'habitude de dire souvent que les Antilles sont françaises depuis 1836 et c'est les gens ont tendance à oublier. Et qu'en fait, effectivement, Pourquoi je dis ça? C'est que souvent, dès qu'on voit un noir, un arabe, des enfants ou des adultes, on ne cherche pas à savoir s'ils sont nés là, ils sont nés ici ou pas, mais ils doivent être intégrés, ils doivent être suivis par un éducateur, etc. Alors qu'il y a vraiment des gens qui n'ont pas besoin de ça. Moi, je ne me sens pas du tout étranger en France. Je ne me suis jamais senti étranger. Et pourtant, souvent, on me renvoie des images comme étant quelqu'un qui doit s'intégrer. Voilà. Donc, alors, je vous invite, je nous invite, j'invite à tout le monde à réfléchir vraiment sur cette question d'intégration, de quelle façon on doit redéfinir, parce que moi, j'irai même plus loin. Je pense qu'il y a, lieu de redéfinir cette question d'intégration. Et par rapport à la culture elle-même, puisque la question qui est posée là, est-ce que la culture peut être un tremplin pour l'intégration? Mais quelle intégration? Moi, j'ai ma culture.
Et quelle culture?
Quelle culture? Voilà.
Non, juste un point et on terminera là-dessus, parce que sinon on va continuer jusqu'à ce soir.
Jean-Pierre, j'ai un mot à dire.
Ah, déjà, vous voyez.
Non, c'est vraiment un mot.
Pardon? Il nous reste 8 minutes. Oui, tout à fait.
Okay. Un mot de 1 minute. En 1962, en Algérie, à la fin de la guerre et donc de l'État colonial, il s'est trouvé, on s'est trouvé, nous Algériens, devant une sorte d'amas de ruines, certainement matérielles, réelles, mais aussi de ruines intellectuelles, morales, etc. C'est énorme ce qui est arrivé. Un monde s'est effondré. Mais il y avait, tout de suite, derrière le monceau de ruines, ou au-dessus, ou à côté, il y avait tout le futur ouvert, toute l'ouverture de la vie qui venait. Et ce qui s'est fait, de manière assez spontanée, c'est, j'en parle vraiment par expérience et personnelle, je ne sais pas pourquoi et comment, les gens se sont dit, on ne dira jamais, c'est ce qui nous arrive là, maintenant, c'est la faute du colonialisme, tout ce qui nous arrive, ça va être désormais notre faute. Tout ce qui nous arrive, c'est notre faute. C'est parce qu'on s'est mal pris, pour ceci, pour cela. Et c'est quelque chose qui s'est fait comme ça, hein, par volontarisme en fait, et par la nécessité de s'en sortir, et qui nous a éviter de tomber dans un terme qui a été forgé juste ces dernières années, mais nous on l'avait pas ce terme, on n'avait pas le concept, mais on avait la chose, on avait le comportement. Ce concept-là, c'est celui de victimisation. On n'a jamais fonctionné comme des victimes. C'est extraordinaire pourtant avec ce qui est arrivé durant la guerre. Jusqu'à présent, vous avez des Algériens qui ont été, vous les avez suivis, torturés, dont la famille a été massacrée, qui sont venus ici, à Paris, témoigner lors de procès contre tel et tel général, etc., et qui ne sont pas venus demander des réparations, sont simplement venus dire « Oui, lui m'a fait ça, lui a fait ça. » Voilà. Je veux simplement qu'ils le reconnaissent. C'est cette attitude-là que je défends sans arrêt, si vous permettez. Et le pire est d'intérioriser cette idée qui peut être un fantasme, à savoir que c'est parce que je suis différent qu'on me fait ceci, qu'on me fait cela. C'est cette intériorisation qui peut être à la limite inhibitrice, terrible. Et l'attitude la plus positive, c'est celle qui consiste à dire on me voit peut-être comme différent, alors il faut que j'en fasse beaucoup plus que les autres.
Je t'interromps parce que je voudrais passer. Dis-moi, Kassem.
Dix mots. Seulement, je dois dire c'est qu'il pose la question essentielle. C'est pour ça que moi, je parlais de la démocratie à réinventer. Dans une démocratie que tu comptes pas, et qui est juste, et tu ne comptes pas, dont je ne compte pas, c'est à réinventer. Et donc, aujourd'hui, nous sommes face à une question politique, idéologique, culturelle. C'est tout un ensemble qui est en cause. Et ce qui se passe dans les banlieues, ça prouve. C'était pas la peine, ça veut dire, moi j'écris des tas de manifestes, n'a pas donné aucune réponse. Mais bon, ça reste des traces. Mais je vais vous surprendre. J'ai écrit des manifestes contre Le Pen, mais sans oublier le reste. Aucun artiste, aucun directeur de théâtre n'a accepté de signer en 1993. Oui, mais ça, je l'ai noté, c'était publié. Et c'est pour ça, ce que j'aime bien dans la parole qui vient d'être dit, c'est qu'il ne faut pas lâcher. il ne faut pas céder. Et j'avais un maître qui m'a appris le théâtre. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est le théâtre un jour, après toutes les contradictions que tu nous as dit. Il dit, le théâtre est un vitrail que tu cognes, mais il faut jamais te lasser à cogner. Un jour, ce vitrail ne sera plus là. Donc il faut être prêt, un jour, il n'est pas là. Et ce jour, il ne faut pas qu'on marche avec nos haines et les bagages qui vont rapporter le mépris. Il faut qu'on reste intact.
Très bien.
Merci. Ben, écoutez, on va s'arrêter sur cette notion d'ailleurs très intéressante de démocratie, parce qu'elle englobe à la fois, parce que là, on a parlé effectivement des personnes qui viennent d'ailleurs, de l'étranger, mais je dirais, il y a les étrangers de l'intérieur. Et ce ne sont pas les deuxième, troisième génération. Je parle des Français eux-mêmes, qui sont marginalisés. Et là, on touche à un problème de classe sociale, bien évidemment.
Bien sûr.
Et là-dessus, je vous remercie tous, et poursuivons le débat.
Merci.
Merci.
Merci à vous tous.
Merci.